Micro Méga, Patrick Chompré.
Micro-méga, suite de l'actualité scientifique, bienvenue avec tout à l'heure rendez-vous avec la presse spécialisée, la physique quantique, rendez-le fou, c'est dans Science et Vie. Origine de la vie, le dernier secret de Stanley Miller, c'est dans Ciel et Espace. Mais tout de suite, voyage vers un continent toujours mystérieux, on se pose plein de questions sur le fonctionnement de notre cerveau au quotidien. Micro-méga. Et ces questions, Caroline, on va se les poser. Nous serons avec Luc Allemand de la rédaction du magazine La Recherche pour la sortie du numéro spécial consacré à l'intelligence, du dossier consacré à l'intelligence. Et tout de suite avec Laurent Cohen, qui est professeur de neurologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et il est auteur de ce livre « Pourquoi les chimpanzés ne parlent pas » aux éditions Odile Jacob.
Et 30 autres questions sur le cerveau de l'homme. Parce que Laurent Cohen est un spécialiste du cerveau qui n'a pas la grosse tête et qui sait répondre assez simplement et souvent avec humour à toutes les questions qu'on peut se poser justement sur le fonctionnement de cette incroyable machine qu'est notre cerveau. Je vous propose peut-être de commencer par une question, elle est un peu basique, je vous l'accorde.
Voyons.
Notre intelligence humaine dépend-elle de la taille de notre cerveau? Heureusement, la réponse de Laurent Cohen va être un petit peu plus subtile que ça.
Si vous regardez un cerveau d'homme et que vous regardez par exemple un cerveau de chien, vous voyez deux différences. D'une part, une différence de taille, évidemment. Mais c'est pas qu'une différence de taille, il y a aussi une différence de forme. C'est-à-dire qu'il y a certaines parties du cerveau, et pas n'importe lesquelles, qui subissent un grand développement ou pas un grand développement en passant d'une espèce à l'autre. Donc, le cerveau, c'est une machine faite de petites machines. C'est-à-dire que l'avant du cerveau, l'arrière du cerveau, le lobe frontal, pariétal, etc., toutes ces régions ont des fonctions différentes. Et si on prend l'exemple de ce qu'on appelle l'intelligence, disons, c'est pas facile à définir, le définissons pas, mais disons la capacité à créer des comportements nouveaux, à s'adapter à des situations inattendues, à sortir de la routine, à faire plus que juste avoir des réflexes, eh bien, pour tout ça, ce qui est important, par exemple, c'est l'avant du cerveau, ce qui est tout à fait en avant, dans les régions qu'on appelle préfrontales, qui sont derrière le front. Et ces régions-là, elles sont particulièrement développées dans l'espèce humaine.
Alors voilà, déjà des premières précisions. L'un des mots que l'on entend le plus souvent, donc chez les spécialistes, chez tous les gens qui travaillent sur le cerveau, c'est le mot plasticité, question que l'on va aborder par le concret.
Ben oui, le cerveau humain a une capacité d'adaptation à toute épreuve, une plasticité. On peut s'adapter à tout, on peut tout apprendre. Mais est-ce que ça se voit, ça, dans le cerveau, quand on a développé tel ou tel talent? Eh bien, c'est la fameuse question du cerveau des experts, aujourd'hui revisitée par les neurosciences.
L'idée que, en fait, la forme de l'anatomie du cerveau changerait selon qu'on est plus ou moins doué dans un domaine ou un autre, c'est une vieille idée. Ça avait été mis en forme, surtout aux environs de 1800, par un certain Franz Joseph Gall, qui était un Autrichien qui est passé à la postérité, qui a inventé la phrénologie, la science des bosses. La seule chose qui nous en reste, c'est la bosse des maths. Il pensait que quelqu'un qui était bon en maths, par exemple, c'était parce que, à sa naissance, la région du cerveau qui sert à faire des maths est particulièrement grosse. C'était il y a longtemps et ça reposait pas sur grand-chose, ces idées. Mais c'est des idées que maintenant on peut reprendre en charge, réétudier avec des moyens et des questions beaucoup plus modernes.
Notamment grâce à tout un appareillage, grâce aux IRM, grâce aux images à résonance magnétique, qui permettent quoi ? De voir à l'intérieur du cerveau, non pas s'il y a la bosse des maths, mais si, quand on fait des maths, une certaine zone s'active.
Ouais, alors il y a deux choses tout à fait différentes avec l'imagerie cérébrale. Par exemple, l'IRM. Première chose, ça permet de faire de l'anatomie, c'est-à-dire voir la forme du cerveau, à quel endroit c'est plus gros, plus petit, l'épaisseur du cortex, l'anatomie. Vraiment, comme si on prenait le cerveau et qu'on le coupait en tranches dans un laboratoire. Et le deuxième type de choses que l'IRM permet de faire, c'est ce qu'on appelle l'imagerie, non pas anatomique, mais fonctionnelle, qui permet donc, comme vous le disiez, de voir pendant qu'on est en train de faire quelque chose, pourtant on est en train de lire, de parler, de chatouiller le dos, n'importe quoi, on peut voir quelles sont les régions du cerveau dont l'activité augmente, qui travaillent à ce moment-là. Mais si on veut revenir à la question sur l'anatomie, effectivement, maintenant, comme on a des moyens d'étude très fines de l'anatomie avec l'IRM notamment, on peut se reposer la question que vous vous posiez, c'est-à-dire, est-ce que le cerveau d'un expert est à la même forme, exactement la même anatomie que le cerveau de quelqu'un d'autre ou pas?
Et alors, docteur, la réponse?
La réponse. En fait, on a des petits éléments de réponse dans des cas particuliers. Je crois que le premier cas qui a été étudié de façon détaillée là-dessus, c'est une histoire intéressante, ça concerne les chauffeurs de taxi. C'est une étude qui a été faite il y a 10-15 ans en Angleterre et qui portait sur des chauffeurs de taxi londoniens. Parce que les chauffeurs de taxi passent des heures et des heures tous les jours à naviguer dans la ville, à se repérer, à suivre des itinéraires, etc. Donc ils sont des experts dans ce domaine. Et l'étude en question a consisté à prendre une bonne douzaine de chauffeurs de taxi, et puis une bonne douzaine de londoniens pas chauffeurs de taxi, et puis à regarder leur anatomie cérébrale avec l'IRM, et à faire des analyses un petit peu sophistiquées sur cette IRM. Et il y a un résultat assez intéressant qui a été trouvé, c'est qu'il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, ça s'appelle l'hippocampe parce que c'est un peu la forme d'un petit poisson, l'hippocampe, que cette région-là, chez le chauffeur de taxi, est plus grosse que chez des gens qui ne sont pas chauffeurs de taxi. Et c'est pas n'importe quoi, cette région-là. C'est une région dont on sait, en particulier ça a été étudié chez le rat surtout, que ça sert à la navigation, à se repérer où on est dans l'espace.
Une sorte de GPS.
Voilà, exactement, c'est une espèce de GPS. En tout cas, chez le rat, on a pu enregistrer dans cette région-là, dans cet hippocampe, des neurones qui forment une espèce de petite carte de l'endroit où se trouve le rat. C'est-à-dire, si le rat se trouve près de la porte de sa cage, eh ben, ça va être les neurones 1, 2, 3, 4 qui vont répondre. S'il se trouve au fond, près de sa litière, je ne sais pas, eh bien, c'est d'autres neurones qui vont répondre. Une espèce de petite carte. Donc, il y a une certaine logique à ce que ce système qui sert à la localisation dans l'espace soit plus développé chez les chauffeurs de taxi, par exemple. Il y a d'autres cas qui ont été étudiés. Par exemple, il y a un exemple assez marrant qui est celui du jonglage. On a pris des gens qui ne savaient pas jongler et puis on leur a dit, bah voilà, pendant 3 mois, vous allez jongler pendant 2 heures par jour. Bon. Et on leur a fait, là aussi, de l'anatomie cérébrale avant et après. Et on a comparé leur cerveau avant et après. Et ce qui se trouve, c'est qu'il y a une augmentation de l'épaisseur du cortex dans certaines régions bien particulières du cerveau, en particulier dans des régions qui servent à traiter le mouvement, à percevoir le mouvement des choses et à contrôler dans une certaine mesure les mouvements. Donc on voit l'impact sur l'anatomie même du cerveau du développement d'une compétence particulière.
Alors, on a pris l'exemple des taxis londoniens, pas les taxis parisiens, hein, ça sera pour un autre chapitre.
Ont-ils aussi un hippocampe si développé? On n'en est pas si sûr.
Hein. Allez, très souvent, les neurologues étudient le cerveau des gens qui ont des pathologies, donc troubles de la mémoire, du comportement, pour mieux comprendre son fonctionnement. On part du négatif, en fait.
Oui, c'est en étudiant, en fait, ce qui ne marche pas, les dysfonctionnements, qu'on comprend eh bien, comment ça fonctionne, un cerveau, disons, à peu près normal, ou en tout cas, pas encore atteint de pathologies aussi perturbantes que celle que rencontre Laurent Cohen dans son cabinet.
D'une façon générale, c'est très vrai qu'une des sources d'informations les plus précieuses sur le fonctionnement du cerveau, c'est les pannes. C'est-à-dire les problèmes de fonctionnement qu'on peut avoir à la suite d'un accident cérébral. Des gens qui, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, une tumeur ou d'un accident de voiture, n'importe quoi, perdent tel ou tel aspect de leur capacité dans le domaine du langage, de la vision, etc. Je vous raconte une histoire, par exemple. Moi, je me souviens de ce patient qui était hospitalisé. Et le problème était le suivant. Il s'était réveillé un matin, il se sentait pas très bien. Bon, il est allé à la salle de bain, il s'est vu dans le miroir et il ne s'est pas reconnu dans le miroir. Il a vu un visage qui était évidemment le sien, mais pour lui, c'était le visage d'un inconnu. Ça ne lui disait plus rien. Alors il est retourné dans sa chambre, il y avait sa femme qui était au lit, le visage de sa femme ne lui disait plus rien du tout non plus. Alors ça s'appelle la prosopagnosie, c'est ça le nom technique de la chose, ça veut dire qu'on ne reconnaît plus les visages en grec. Et dans la prosopagnosie, les gens ne reconnaissent plus donc les visages, mais ils reconnaissent n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire par exemple ce patient, il a reconnu le collier de sa femme qui savait que c'était un collier qu'il lui avait acheté en Grèce, etc., etc. Et on a dans le cerveau un système qui est spécialisé pour la reconnaissance des visages, et quand ce système est en panne, on ne reconnaît plus les visages, mais le reste continue à marcher, on peut lire, on reconnaît les objets, etc.
Mais on ne reconnaît plus les visages, ça veut dire qu'on ne sait plus à qui il appartient, on sait que c'est un visage,
voilà, alors, on sait que c'est un visage, on sait que c'est un visage d'homme, de femme, jeune, vieux, etc. Mais on ne peut plus accéder à l'identité de la personne qui est derrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est juste le visage lui-même qui est inutilisable, mais... Par exemple, un patient prosopagnosique peut parfaitement s'aider de tous les autres indices. Il dit « Ah oui, je reconnais celui-là, il a une 50aine d'années, il a les cheveux blancs, il marche en boitant un petit peu, ça doit être un tel. » Et la voix reste parfaitement reconnaissable. Il y a des patients prosopagnosiques qui ne reconnaissent pas la personne qui entre dans la pièce, même si c'est leur femme, même si c'est leur fils, etc. Mais dès que cette personne parle, eh bien, il reconnaît sa voix. Tout de suite. Donc, dans le cerveau en général, et dans le système qui, dans le cerveau, nous permet de reconnaître visuellement ce qu'on voit, il y a des sous-systèmes très spécialisés, par exemple pour les visages, on ne reconnaît plus les visages. Il y a d'autres pannes du même genre, par exemple. Pour avoir une prosopagnosie comme ça, d'habitude, il faut avoir un accident dans l'hémisphère droit, sur le dessous du lobe temporal droit. Maintenant, si vous avez un accident du même genre sur le dessous du lobe temporal gauche, donc dans l'autre hémisphère, vous n'allez pas devenir prosopagnosique, mais vous aurez, par exemple, des problèmes pour lire. Et ça aussi, c'est quelque chose de très spectaculaire. Il y a des gens qui, de la même manière, se réveillent un matin, après un accident vasculaire cérébral, par exemple, dans cette région-là, qui reconnaissent les visages, qui reconnaissent les objets, qui savent où ils sont, qui parlent normalement, qui comprennent ce qu'on leur dit, qui écrivent normalement, mais quand ils voient un mot devant eux écrit, pour eux, c'est du chinois. Ils ne reconnaissent pas les lettres, ils ne reconnaissent pas les mots, ils reconnaissent tout le reste. Ready?
Sur le cerveau et sur sa manière de fonctionner, que c'est extrêmement complexe et que ça met en jeu plein de sens et de parties.
Oui, ça met en évidence ça, une des faces de la pièce, si on peut dire, qui est que le cerveau a un fonctionnement très décomposé, c'est-à-dire qu'il y a une grande spécialisation des tâches. Les différentes régions ne servent pas à la même chose. Et par exemple, si on regarde l'exemple de la vision, vous regardez autour de vous, vous voyez par exemple une tasse bleue. Et bien, on sait que ce n'est pas les mêmes régions du cerveau qui s'occupent d'identifier les couleurs, qui s'occupent d'identifier les formes, qui s'occupent d'identifier la position des objets dans l'espace. Donc, quand vous voyez une tasse bleue posée à votre droite, et bien, c'est une région qui sait que c'est bleu, une région qui sait que c'est une tasse, une région qui sait que c'est à droite, pour caricaturer un peu. Donc le travail est divisé entre différentes régions cérébrales. Donc il y a une autre face de cette affaire qui est que tout ça doit être ensuite synthétisé, remis ensemble. Parce que ce qu'il faut, c'est que vous voyez que c'est la même chose. La tasse bleue qui est à droite.
Et tout ça en une milliardième de seconde.
Un cerveau, ça marche beaucoup plus lentement qu'un ordinateur. Ça se compte en dizaines, centaines de millisecondes. C'est pas rien, c'est assez long. Alors heureusement, le cerveau a un fonctionnement parallèle. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses en même temps. Donc c'est pas parce que vous êtes en train de reconnaître une tasse qu'en même temps vous allez être incapable de marcher, de respirer, etc.
Puisque vous parliez de la tasse bleue, Laurent Cohen, il y a un moment, un chapitre qui est très étonnant sur l'attention justement qu'on peut avoir aux choses, et vous citez l'exemple sur internet, je crois, d'un gorille qui passait que
marrant,
personne
ça.
Ne voyait sur l'image.
Ouais, c'est très marrant. Ça, c'est facile à aller voir, hein. Le site est facile à trouver. Ce qu'on voit, c'est un petit film, alors on voit une demi-douzaine d'étudiants avec un t-shirt blanc, une demi-douzaine d'étudiants avec un t-shirt noir, et puis l'équipe blanche et l'équipe noire sont mélangées entre eux, et puis il se passe des balles, les blancs aux blancs, les noirs aux noirs, etc. Ils jouent. Bon. Et ce que vous devez faire, c'est compter le nombre de passes que se fait l'équipe blanche, par exemple. Une passe, deux passes, trois passes. Et puis vous regardez, ça dure 20 secondes, et puis voilà, c'est tout. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en fait, en plein milieu du film, il y a un gorille qui entre sur la scène, qui s'arrête en plein milieu des joueurs, qui vous regarde en face, qui se tape sur la poitrine, et puis qui ressort calmement. Et ce gorille-là, il y a au moins la moitié des gens qui font cette tâche de compter les passes qui ne le voient pas. Alors là, malheureusement, je suis désolé de vous le raconter comme ça, parce que maintenant que vous le savez, vous allez le voir, ce gorille. Mais des gens qui ne sont pas prévenus qu'il va y avoir un gorille, la moitié ne le voit pas.
Ça veut dire qu'on ne voit que ce à quoi on s'attend ou...
On ne voit que ce à quoi on fait attention. Alors, maintenant, ce à quoi on fait attention, ça peut être soit des choses à quoi on s'attend, c'est-à-dire qu'on va chercher. Je cherche mes clés sur la table. Alors à ce moment-là, je les cherche. Donc je m'attends à les trouver. C'est ça l'objet que je cherche. Je vais y porter attention, ce qu'on appelle l'attention endogène, de l'intérieur. C'est-à-dire c'est l'attention que je porte volontairement aux choses. Il y a une deuxième manière que les choses ont de se signaler à notre attention, c'est par elles-mêmes, c'est-à-dire une lumière très brillante, un bruit très soudain, très fort, etc., par lui-même va attirer l'attention à lui, comme une espèce de fonction d'alerte. Il faut qu'on soit capable d'être attiré par quelque chose de vraiment nouveau. Donc ça, on en prend conscience. Et puis le reste, en fait, on n'en prend pas conscience. Il peut se passer des trucs énormes devant nos yeux, c'est l'exemple du gorille. Eh bien, on peut parfaitement, même si on a les yeux ouverts, ne pas en avoir conscience. Une espèce de cécité, on est aveugle aux choses si on n'y porte pas son attention.
Gare aux gorilles, donc, sur le site du Visual Cognition Lab. Si vous voulez en faire l'expérience, vous tapez viscog.beckman sur n'importe quel moteur de recherche. Et ça marche, surtout quand on n'est pas prévenu, n'est-ce pas, Patrick?
Ah bah moi, je vous le conseille vraiment. Hein, c'est vraiment, moi, je n'ai pas vu l'étudiant déguisé en gorille. C'est stupéfiant, c'est un peu effrayant aussi, parce qu'on se dit que bah, tous les jours, on doit passer comme ça, à côté de choses aussi énormes. Non, c'est vraiment à faire.
Laurent Cohen, autre sujet maintenant avec cette drôle de question que vous vous posez, si j'ose dire, à vous-même dans ce livre. Croyez-vous aux fantômes, professeur Laurent Cohen?
Naturellement, oui, bien sûr. Tous les neurologues croient aux fantômes.
Expliquez-nous ça.
Non, je plaisante, mais c'est pas drôle, parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle les membres fantômes. Les membres fantômes, c'est le fait que quelqu'un, après avoir perdu un membre à la suite d'un accident ou d'une amputation, un bras, une jambe, etc., peut très souvent continuer à avoir l'impression que ce membre est là. Et ça peut être des sensations extrêmement réelles, si on peut dire. C'est-à-dire que les gens souvent ont mal à leur membre absent, et malheureusement ce sont des douleurs qui sont très difficiles à traiter.
Et ça veut dire que les gens, s'ils ont mal à un membre absent, ça veut dire que dans le cerveau, il y a toujours quoi? Une représentation de ce membre qui existait autrefois?
Bah, bien sûr,
et qui du coup fait mal?
Bah oui, exactement. Parce que, en fait, moi, je sais où est mon bras droit, par exemple, la position de ma main, etc. Pourquoi je le sais? Parce que je le vois, par exemple, et je sens aussi mes nerfs apportent des sensations qui me disent dans quelle position sont mes articulations, quel est le contact que je ressens sur ma peau, etc. Donc il y a plein d'informations qui arrivent à mon cerveau en provenance de ce membre. Donc il y a dans mon cerveau une représentation de ce bras. Maintenant, si ce bras, qu'à Dieu ne plaise, disparaît, on me l'enlève, eh bien, ces neurones dans le cerveau qui s'occupent de ce bras continuent à être là.
Et ils se demandent ce qui se passe au bout.
Et d'une certaine manière, ne sont pas au courant. Et donc, ils reçoivent des informations qui sont chaotiques, qui ne ressemble plus à rien, et probablement pour ça, engendre des douleurs.
Il y a d'ailleurs, vous le décrivez, une forme de thérapie assez particulière pour des gens qui souffrent de membres fantômes. On peut leur faire visualiser...
Oui, alors, un neurologue américain du nom de Ramachandran a imaginé un système assez rusé. Alors, c'est un peu difficile à expliquer à la radio, ce serait plus facile à la télévision, mais l'idée est la suivante, c'est que, imaginez, vous n'avez plus de bras droit. Vous glissez votre bras droit derrière un miroir qui reflète votre bras gauche. Donc quand vous regardez à l'endroit où est votre bras droit, eh bien vous voyez en fait le reflet de votre bras gauche. Donc vous avez l'impression d'avoir un bras droit. Bon, ok. Ensuite, vous commencez à faire bouger votre bras gauche, tout en regardant son reflet. Et à ce moment-là, vous avez l'impression que vous réussissez à faire bouger votre bras droit. Et effectivement, il semble que, en procédant de cette manière-là, les patients puissent parfois récupérer un certain contrôle sur le fantôme de leur bras droit.
Ce qui veut dire au fond que ces patients-là ont réussi quelque part à leurrer leur propre cerveau.
Oui, si on peut dire, c'est-à-dire que réussi à reprendre, à réhabiter d'une certaine manière ce bras fantôme, à le modifier, à changer sa position, et il semble que dans certains cas, ça permette de diminuer les douleurs.
Donc voilà, notre cerveau, si je comprends bien, reconstruit à partir de perceptions fort variées une sorte de réalité, enfin ce qu'on prend nous pour la réalité. Ça pose quand même aussi la question de la fiabilité de notre cerveau.
Mais disons que parfois il vaudrait peut-être mieux s'en méfier de notre cerveau. Pour les neurologues qui étudient son fonctionnement, la différence entre hallucination et réalité est finalement très très mince et pour ainsi dire inexistante. C'est pas moi qui hallucine, Patrick, c'est professeur Laurent Cohen qui le dit.
Fondamentalement, je crois qu'on vit dans un monde qu'on hallucine. On hallucine tout le temps. Alors bon, parce que si vous voulez, je vois une lampe rouge là devant moi en ce moment, et puis à côté, je vois cette tasse bleue. Eh bien, la lampe n'est pas rouge et la tasse n'est pas bleue. Je veux dire par là que les deux, c'est de la lumière qui est renvoyée vers mes yeux, avec des longueurs d'onde un peu différentes. Mais le caractère rouge et le caractère bleu, c'est uniquement des espèces d'étiquettes que mon cerveau impose à ces objets. Il dit, bon là, ça moi je vais le voir comme rouge, ça c'est le voir comme bleu. C'est des constructions de notre cerveau. C'est quelque chose qui est un peu troublant comme impression. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on hallucine? Il y a des hallucinations en fait dans deux genres de circonstances. Il y a une première situation, et ça c'est plutôt les neurologues qui s'en occupent, c'est qu'il y a le système de perception, le système visuel, le système auditif, qui part en roue libre, qui s'excite et qui fabrique d'une certaine manière, qui commence à travailler sans aucune stimulation extérieure. C'est-à-dire, si votre système visuel, qui normalement est mis en route par de la lumière que vous recevez de l'extérieur, commence à se mettre en route tout seul...
Dans les rêves, finalement.
Un peu comme dans les rêves, exactement. C'est-à-dire que, de lui-même, il y a une activité spontanée qui déborde, par exemple parce qu'il y a une crise d'épilepsie, eh bien, ça donne des hallucinations. Et par exemple, je me souviens d'un patient qui avait ouvert la fenêtre, et puis il avait eu un visage en l'air au deuxième étage, et c'était le visage d'un de ses amis. Un ami avec qui il avait rendez-vous en principe un quart d'heure plus tard, d'ailleurs. Bon. Et il a eu très peur. Il se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de devenir fou. Bon, ce patient, ce qu'il avait à ce moment-là, on l'a compris après, c'est que, il avait eu un petit hématome qui s'était produit dans son lobe temporal droit, dans la région qui sert à reconnaître les visages. Et ce petit saignement avait probablement provoqué une espèce de décharge électrique locale qui avait suractivé le système de vision des visages, qui avait créé cette hallucination de toute pièce. Et puis il y a un deuxième genre d'hallucination assez différente, qui sont plutôt les hallucinations qu'ont les patients dont s'occupent les psychiatres, des patients psychotiques, etc., qui entendent des voix. Et ces patients qui entendent des voix, on pense que leur problème, c'est que en fait, c'est leur propre voix, naturellement, qu'ils entendent, parce qu'on se parle tous dans notre tête. Et si, comme on pense que c'est le cas chez ces patients, ils ne savent plus que cette voix qu'ils entendent est la leur, à ce moment-là, ils ont l'impression qu'ils entendent des voix qui viennent de l'extérieur. Et à ce moment-là, ensuite, comme nous, on ne peut pas s'empêcher de donner un sens aux choses, ils disent, bah, cette voix qui vient de l'extérieur, eh ben, c'est, allez savoir, c'est le diable, c'est les renseignements généraux, ou c'est qui vous voulez.
Hein. Au fond, si je vous suis bien, Laurent Cohen, on serait tous un peu en train d'halluciner, de se créer notre propre réalité, on fait avec, on a des voix à l'intérieur, on se débrouille avec tout ça.
Oui, oui, mais normalement, les choses se passent pas trop mal.
En général, pour en savoir un petit peu plus justement sur comment ça se passe à l'intérieur dans nos têtes, Laurent Cohen vient de publier chez Odile Jacob « Pourquoi les chimpanzés ne parlent pas ?» et 30 autres questions sur le cerveau de l'homme.
Restez, nous continuons à halluciner dans Micro-Méga. Qui s'appelle le s'oxygéner le cerveau, Micro-Méga, la science sur RFI, sortie d'un dossier du magazine La Recherche, l'intelligence, comment notre cerveau développe ses étonnantes capacités. Luc Allemand, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de la rédaction de La Recherche, vous avez coordonné, dirigé ce dossier, et la question que vous vous posez au fil de toutes ces pages, c'est est-ce qu'on est plus ou moins intelligent, ou est-ce qu'on le devient au fil de notre développement? Si on voit tout ça, on a l'impression quand même qu'on met l'accent sur le développement en ce moment.
Alors, il y a effectivement depuis longtemps ce débat entre ce qu'on a d'inné, ce qui est présent dès la naissance chez le tout petit bébé, et puis ce qui se construit au fur et à mesure de sa croissance, et à mesure qu'il devient un enfant, puis un adolescent, puis un bel adulte comme vous et moi. Il semble qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que l'enfant naissait un peu comme une page blanche, mm-hmm. et qu'il s'agissait d'écrire dessus, et que l'éducation, l'environnement allaient produire quelqu'un de plus ou moins intelligent. Depuis un certain nombre d'années, on s'aperçoit que, en fait, il y a des capacités qui sont présentes très très tôt chez le jeune enfant. Alors, on peut prendre l'exemple du langage. Mm-hmm. Hein, le grand linguiste Chomsky avait proposé, il y a déjà un certain nombre de dizaines d'années, qu'il existait une structure universelle du langage, une grammaire universelle, comme il l'appelait, qui permettait aux enfants d'apprendre chacun la langue dans laquelle ils étaient élevés. Chacun apprenait la langue qu'il entendait au quotidien, mais il y avait une structure sous-jacente. Il semble que pour d'autres capacités, notamment le calcul, il y ait des capacités très très précoces.
Mais est-ce qu'il y a de nouvelles données scientifiques qui arrivent, qui nous permettent de quantifier tous ces développements et justement de faire la part des choses entre ce qui existe et ce qui se développe?
Alors oui, justement, c'est ça qui est vraiment très intéressant en ce moment, et c'est ce qui a un peu motivé la publication de ce dossier aujourd'hui, parce que on entendait tout à l'heure Laurent Cohen parler d'imagerie cérébrale. Alors, de la même façon, on a commencé, poussé par la nécessité pour des enfants qui souffraient d'un certain nombre de maladies, on a exploré leur cerveau avec ces outils d'imagerie, et puis on s'est aperçu au fil du temps que ça ne créait pas de problème particulier. Donc aujourd'hui, on commence à étudier le cerveau d'enfants assez jeunes, directement dans des machines telles que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, et donc à observer ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant qui fait des calculs, qui fait des exercices de lecture, etc.
Et d'ailleurs, il y a un reportage sur ce centre à Caen, et donc sur ces expériences d'imagerie médicale sur les enfants.
Oui, alors on a fait un reportage parce que c'est assez particulier, parce que c'est une technique d'observation qui nécessite qu'on ne bouge pas du tout. Pour faire une belle photo de votre cerveau en train de calculer, par exemple, il faut que vous soyez complètement immobile. Et donc, on imagine aisément que c'est difficile chez un enfant de 5-6 ans de rester immobile pendant les 10 minutes, un quart d'heure que dure l'expérience.
Tout en calculant.
Donc l'équipe qui a entrepris cette expérience et cette étude a mis au point un protocole pour entraîner les enfants à rester immobiles. Donc il y a tout un jeu, on leur apprend le jeu de la statue par exemple. Donc ils s'entraînent la veille, ils s'entraînent encore avant de rentrer dans l'IRM, ce qui permet de faire des images de très bonne qualité.
Mais l'idée en fait après, c'est de les suivre ces enfants et de voir si effectivement ceux dont le cerveau réagissait mieux par exemple au calcul vont continuer à réagir mieux à d'autres niveaux. L'idée c'est de les suivre ces enfants?
Alors, pas pour l'instant. Alors, il y a des études qui ont été faites en suivi, mais uniquement en imagerie anatomique. Notamment aux États-Unis, il y a eu une étude assez longue, donc puisqu'il fallait attendre que les enfants grandissent, qui a permis d'observer très directement comment les structures cérébrales se mettent en place, comment le cerveau se remodèle au fil de la croissance. Et on s'est aperçu que le cerveau de l'enfant n'est pas un cerveau d'adulte en réduction. C'est autre chose, c'est-à-dire que les différentes zones du cerveau se développent à des moments différents, à des vitesses différentes. Et donc, ce qui explique, par exemple, que, bon, on a longtemps mis le comportement un peu erratique, disons, des adolescents sur le compte de poussée hormonale, par exemple. Et on s'aperçoit qu'en fait, leur cerveau est aussi en cause dans ce comportement parce que le cerveau d'un adolescent n'est pas terminé.
Alors voilà, il y a évidemment plein de sujets passionnants de ce type. Notamment, évidemment, on se doute bien que cela débouche aussi sur des questions sur l'éducation. Et ça peut changer des choses.
On et a sur pas... la plasticité du cerveau, ben on, voilà, y on y toujours, revient. Hein.
On n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais il faut lire le dossier de la recherche donc, qui sort donc, en ce moment et qui est donc, disponible pendant 3 mois. Merci, Luc Allemand.
Merci.
Micro-méga sur RFI, on déconnecte quelques synapses pendant quelques temps et puis on se retrouve juste après le journal pour la suite.